Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, présenté par Belinda Boussouma. Environ 3000 morts déjà enregistrés à la suite de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Goma est aujourd'hui assiégée, coupée du monde et Kigali n'a toujours pas été sanctionnée. Cela prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs, ni éveillé les consciences des décideurs. Propos de la ministre congolaise des Affaires étrangères. Santé, la journée de lutte contre le cancer est célébrée le 4 février. En RDC, cancer égale adulte, alors que les enfants aussi en souffrent. Plusieurs facteurs constituent un frein à la lutte contre cette maladie dans le pays. Nous en parlons dans ce journal. Et puis, l'invité de ce matin, Moussa Kabwankubi Moïse, gouverneur du Maniema, il revient sur l'importance du cadre d'échange qu'il a organisé en début de semaine à Kindu. C'est dans le cadre de la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau reportée. Madame, Messieurs, bonjour. La ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants dans l'Union européenne. Cela prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs, ni éveillé les consciences des décideurs. Propos de la ministre congolaise des Affaires étrangères au cours de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne mercredi à Bruxelles. Pour Thérèse Kayikwamba, cette guerre du M23 soutenue par le Rwanda est non seulement une guerre des territoires, elle est aussi économique, caractérisée par le pillage des ressources naturelles par le Rwanda. On écoute la ministre d'État aux Affaires étrangères dans cet extrait choisi par Grace Hamzati.
Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit.
Justement, le prix Nobel de la paix exige des sanctions immédiates et coordonnées contre le Rwanda en suspendant notamment toute aide humanitaire et économique. Le docteur Denis Mukwege intervenait mercredi à la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Il dénonce le fait que l'Union européenne continue de soutenir les actions militaires du Rwanda tout en sachant les bévues que ce pays est en train de commettre, notamment sur le plan humanitaire. On écoute Denis Mukwege dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Cette crise humanitaire est parmi les crises humanitaires les plus négligées de notre temps. Il y a l'absence de volonté politique, puisque nous savons que si cette volonté politique pouvait naître de cette conférence, aujourd'hui, la guerre peut s'arrêter demain. Le Rwanda, ce n'est pas une puissance, ni nucléaire, ni militaire. C'est puisque tout simplement, le Congo se trouve dans un état de faiblesse, un chaos organisé depuis 3 décennies. Et puis, c'est une crise négligée puisqu'il y a une insuffisance d'aide alimentaire. L'année passée, l'appel qui était fait n'a été répondu qu'à 50%, alors que le Congo compte aujourd'hui plus de 7 millions de personnes qui sont actuellement déplacées. Aujourd'hui, nous comptons plus de 25 millions de Congolais qui sont dans l'insécurité alimentaire aiguë, alors que nous avons un pays qui peut permettre des récoltes suffisantes, pas seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. La violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre. Une femme qui est violée toutes les 4 minutes. L'Union européenne, les États-Unis, la communauté des nations ne doivent plus fermer les yeux sur les actions du Rwanda en République démocratique du Congo.
Entre-temps, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI lance une demande urgente à la coopération et à la soumission d'informations de la part de tous les partenaires sur la situation en République démocratique du Congo. Cet appel est lancé dans un communiqué. En octobre 2024, le procureur Karim Khan a annoncé que le bureau renouvelait ses efforts d'enquête en RDC en se concentrant en priorité sur les crimes présumés relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022. Cette enquête ciblée est active et se poursuit avec urgence, dit le communiqué. Le bureau dit suivre les événements actuels de près, y compris la grave escalade de la violence au cours des dernières semaines dans l'est de la RDC, en particulier à Goma et ses environs. D'autres détails avec vous, Alain Rumushinji.
Des sources crédibles indiquent que des milliers de personnes ont été blessées et des centaines tuées à Goma et dans ses environs, y compris des civils et des soldats de maintien de la paix, suite à des mois d'affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement du 23 mars et leurs alliés, indique le communiqué. Selon le communiqué, la situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Le bureau continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres de groupes spécifiques. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, états partis et non partis, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties, conclut le communiqué.
Et puis, cette mise en place des commissions thématiques préparatoires du Forum national pour la paix et le vivre ensemble en RDC, ces commissions travailleront en atelier. Elles ont été présentées hier à la presse au centre interdiocésain à Kinshasa par la coordination du pacte social pour la paix et le vivre ensemble, CENCO-ECC. Selon Didier Moumengi, coordonnateur du secrétariat technique, il s'agit d'une première étape, prélude au forum qui va rassembler des Congolais, toutes tendances confondues, pour des réflexions à mené sur la gouvernance pacifique du pays. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
La coordination CENCO-ECC ne communique pas le calendrier. Elle affirme avoir obtenu du chef de l'État son ouverture et le consensus, ainsi que de la part des acteurs politiques jusqu'ici consultés, des garanties nécessaires à l'aboutissement de ce forum inclusif qui n'est pas à confondre avec un dialogue pour le partage des pouvoirs. Monseigneur Donancien Cholet présente quelques thématiques.
Défense de sécurité pour la paix. L'objectif, c'est renforcer les dispositifs de sécurité coopérative et lutter contre les groupes armés illégaux. Paix par la cohésion sociale et interculturelle. L'objectif, c'est promouvoir la réconciliation.
S'agit-il d'organiser une nouvelle transition politique? Va-t-on dialoguer avec le M23? Monseigneur Cholet et le pasteur Eric Senga expliquent.
Dialogue au Congo, pouvoir directement partage de pouvoir. Nous ne sommes pas là pour dicter les résultats de ce qui va être fait.
Dans notre approche, nous visons la paix durable et il serait en tout cas aberrant, sinon illusoire, de penser avoir la paix sans inclure tous les acteurs concernés.
Selon Didier Moumengi, l'objectif final est la perspective d'une conférence internationale de la région des Grands Lacs pour la paix entre voisins, dont l'appel sera lancé à la communauté internationale à l'issue du forum.
La guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo n'épargne personne. Même le secteur sportif est affecté. C'est le cas du championnat national de football Ligue 1, dont la phase aller peine à toucher à son terme. Détail avec Vanessa Nkongolo.
Les premiers à être touchés par cette guerre sont les clubs du Nord et Sud Kivu qui ne savent pas se déplacer pour rejoindre les lieux prévus pour leur match en retard de la phase aller du championnat national. Les cas les plus récents concernent la formation de l'Étoile du Kivu qui ne s'est pas rendue à Kindu pour y être reçue par Maniema Union le dimanche dernier, faute d'avion. Même situation que traverse l'équipe de Bukavu Dawa, un autre club du Sud Kivu qui va manquer son match pourtant attendu ce mercredi 5 février à Kindu. Une situation qui pousse le comité de normalisation de la FECOFA à convoquer une réunion des crises ce jeudi pour tabler sur l'avenir du championnat vu les temps qui restent pour la fin de la saison sportive en RDC prévue le 31 mai prochain. Pour rappel, la Fédération congolaise de football avait en décembre dernier conditionné la publication du calendrier de la phase retour à l'organisation de tous les matchs de la manche aller.
santé. Nous continuons à parler du cancer en marge de la journée de sensibilisation et des luttes qui lui est consacrée le 4 février de chaque année en RDC. Quand on évoque cette maladie, beaucoup pensent aux adultes. Pourtant, même les enfants ne sont pas épargnés. L'ignorance des parents, le dépistage tardif, le manque des moyens financiers et de couverture de santé sont des freins à la lutte contre le cancer en RDC. C'est parmi les éléments qui ressortent de la journée de célébration de cette année à Kinshasa. Nancy Tambo nous en parle.
Les cancers existent bien chez les enfants en RDC et même dès la naissance parfois. Ce sont des cancers spéciaux qui nécessitent un personnel qualifié et des structures convenables pour la prise en charge. Explication du docteur René Ngiyulu, professeur d'oncologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa.
Pour traiter un cancer, il faut beaucoup de choses. Non seulement qu'il faut poser le diagnostic, mais il faut avoir la compétence de pouvoir les traiter. Il faut voir les moyens de les traiter et les structures pour les traiter.
Espérance Manako est la grand-mère d'un enfant de 9 ans atteint d'un cancer diagnostiqué depuis bientôt une année. Elle nous dit son calvaire pour arriver au bon diagnostic et le poids des charges pour la famille.
En mars, ça fera une année depuis que le cancer de l'enfant avait été diagnostiqué. Cela avait commencé par des fortes fièvres et des ganglions. J'ai dû parcourir plusieurs pédiatries telles que Kabinda et Kalembelembe, mais les examens indiquaient toujours une tuberculose. Il avait suivi de longs traitements sans succès. Il nous fallait faire une biopsie aux cliniques universitaires. C'est là qu'on a découvert qu'il avait un cancer ganglionnaire.
Encore faible suite à la chimiothérapie, Espervie, 9 ans, garde espoir, il appelle les autres enfants malades à persévérer dans leur traitement. Le ministère de la Santé a promis son appui aux structures de la lutte contre cette maladie.
Direction le Kasaï oriental. Le calme est revenu à Mbujimayi après la manifestation des agents de énergie du Kasaï, NRK, qui protestaient contre les inégalités salariales attribuées à la société tchèque Seco. Le gouverneur de province exige à la partie tchèque de présenter les termes de l'accord signé avec la MIBA. Explication avec Esther Ndalafina.
Les activités administratives et commerciales ont été paralysées mardi au bureau de l'entreprise énergie du Kasaï NRK. Les agents en colère ont manifesté pour réclamer 6 mois d'arriéré de salaire. Les éléments de la police sont intervenus pour rétablir l'ordre. Les agents de NRK dénoncent les inégalités salariales entretenues par l'entreprise tchèque dénommée Seco qui exploite depuis près de 6 mois la centrale hydroélectrique de Tchala. Selon eux, les contrat signé avec la société minière de Bakwanga et Seco stipule que cette dernière reçoit 85% de la production d'énergie et 15% seulement à NRK. Cette part est jugée insuffisante pour couvrir les salaires des agents qui s'occupent de la distribution et de la commercialisation de l'énergie en Mbujimayi ainsi que le fonctionnement. Ils affirment que Seco prend en charge les salaires qu'est des agents affectés à la centrale hydroélectrique de Tchala. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Rendons-nous à Inongo, chef de la province de Maïndombe. Ici, la prison centrale d'Iomé, l'unique censée être la plus importante de la province, se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Cela à la suite de sa vétusté, alerte le cadre de concertation provinciale de la société civile. D'après le président de cette structure, cette maison carcérale ne réunit plus des conditions pour être appelée prison et garder les détenus au regard de l'état de ses murs et de ses pavillons. Il plaide auprès du gouvernement pour la reconstruction en urgence de cette prison. Irène Boma.
Construite en 1928, la prison centrale d'Iyombe dans la ville d'Inongo est aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé au point de ne plus mériter son appellation. Les murs fissurés menacent de s'écrouler même sur les prisonniers, tandis que les fenêtres et les portes en bois profondément rongées par la vétusté ne servent plus à rien. Sur les 7 pavillons que compte cette maison carcérale, seuls 3 restent partiellement fonctionnels et les autres sont inutilisables faute de toiture. Isidore Bolikala, président du cadre de concertation provinciale de la société civile du Maïndombe, pense que la reconstruction de cet établissement pénitentiaire est une urgence.
Les prisonniers d'Inongo, nous les appelons des prisonniers libres. Ils peuvent fuir d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que le problème, c'est de renouveler ou bien de reconstruire encore une prison dans la province de Maïndombe. C'est une urgence tant pour le gouvernement national que pour le gouvernement provincial.
La prison centrale d'Inongo, ayant la capacité de 150 détenus, en compte en ces jours 87 qui vivent dans des conditions indignes, exposées au manque de nourriture, de médicaments et d'installations hygiéniques. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Promis par le président russe Poutine, les 30 000 tonnes de carburant gasoil à titre d'aide humanitaire arrivent bientôt en République centrafricaine. Le porte-parole du gouvernement centrafricain indique que la première cargaison arrive d'ici la fin de la semaine. Il a également déclaré que les stations-service fermées depuis des années dans certaines villes des provinces seront rouvertes afin de prendre en charge la distribution des hydrocarbures. Cette action de la Russie vise à aider la République centrafricaine avec laquelle elle entretient des solides liens de coopération multiforme à surmonter la crise énergétique. Mais pour le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, la gestion de ce prétendu don russe manque de transparence.
L'invité.
Il s'agit du gouverneur du Maniema, Moussa Kabouankoubi, revient sur l'importance du cadre d'échange qu'il a organisé lundi à Kindu. C'est dans le cadre de la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau. Le gouverneur du Maniema est avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabouankoubi Moïse, bonjour.
Bonjour Madame Flora.
Après que la conférence sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau soit reportée, qu'est-ce qui était à la base et au centre de ces cadres d'échange que vous venez d'organiser?
Comme vous le savez, cette conférence devait commencer le 3 février 2025, mais suite aux raisons d'ordre logistique, elle a été reportée. Mais il s'est fait que des intervenants étaient déjà avec nous ici à Kindu, notamment les secrétaires exécutifs du corridor central et Madame la DGA du FOGEC, Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Alors, étant donné l'importance des thèmes qu'ils devaient développer, nous avons jugé bon d'organiser ces mini-ateliers où les deux intervenants nous ont exposé leurs thèmes. Le secrétaire exécutif a parlé des études de faisabilité sur le chemin de fer qui va relier la ville de Kindu au port de Dar es Salaam, en passant par Bujumbura, Uvira, Bukavu et Kindu. Et Madame la DGA a parlé du financement des PME et PMI congolaises et elle a annoncé une enveloppe importante qui sera accordée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux petites et moyennes industries du Maniema.
Alors, tout en exposant tout ça à la population du Maniema, est-ce que ce projet sera vraiment réaliste?
Oui, nous le pensons parce que, comme vous avez vu les images du chemin de fer déjà construit, du côté de la Tanzanie et vous avez vu des trains opérationnels, c'est un chemin de fer électrique et à écartement standard. Et là, nous avons vu que du côté Burundi, on venait de signer déjà les contrats pour la construction d'environ 200 km pour les chemins de fer Dar es Salaam Bujumbura. Donc ce qui reste, c'est la partie congolaise qui doit encore payer environ 1 500 000 $ pour achever les études. Et là, nous remercions son excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo qui a ordonné le paiement de la première tranche de 900 000 $ et nous pensons qu'il en sera de même pour les soldes de ces montants-là, environ 1 500 000 $, étant donné que aussitôt que les études seront achevées, la BAD est déjà alignée pour financer les travaux.
Monsieur le gouverneur, si ce projet s'est réalisé, ça servira à quoi et quel sera l'avantage de la province du Maniema?
Quand nous parlons de l'enclavement de la province du Maniema, c'est notamment le fait que le Maniema ne soit pas relié directement à un autre pays, directement à l'océan ou à la mer. Mais ce projet a l'avantage de nous relier directement au port de Dar es Salaam, qui est un port international. Les implications économiques sont énormes, notamment, nous aurons la possibilité, pour votre information, aujourd'hui, pour importer la marchandise de la Chine, vous devez acheminer votre marchandise à Dar es Salaam. De Dar es Salaam, la marchandise doit prendre la destination de Kigoma. De Kigoma, vous traversez le lac Tanganyika pour Kalemi, mais de Kalemi déjà, pour traverser déjà Kigoma, vous avez la marchandise qui est dans des conteneurs, mais comme nos bateaux qui opèrent sur les lacs Tanganyika n'ont pas la possibilité, la capacité de transformer des conteneurs entiers, il faut décharger ces conteneurs-là. Vous mettez la marchandise dans des bateaux avec beaucoup de risques et de pertes. Et de là, vous amenez votre marchandise à la SNCC pour les trains. Avant la réhabilitation du pont Luizi, il y a des marchandises qui ont passé une année, 6 mois, 8 mois, en train d'attendre les trains. Donc, en ayant un chemin de fer qui nous relie directement à Dar Salaam, nos marchandises auront la possibilité de quitter Kindu jusqu'à Dar Salaam dans moins de 24 heures, ce qui est énorme en termes de gains de temps, de moyens et d'énergie.
Il vous a été demandé de vous approprier de ces projets.
Et là, je pense que nous sommes déjà en train de nous approprier de ces projets. C'est pourquoi nous recommandons vivement aux caucus de nos députés nationaux et même des sénateurs de Maniema de faire déjà ce qu'ils avaient fait, de telle sorte que les études puissent s'achever déjà au mois d'avril.
Monsieur le gouverneur Moussa Kawankubi Moïse, je vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.